Dans le vieux manoir anglais de Blaye, une gouvernante est engagée pour prendre soin et avoir l'entière responsabilité de Miles et Flora, deux jeunes enfants. Tout se déroule à merveille, mais le charme est rapidement rompu par une série d'apparitions mystérieuses. Les deux enfants sont menacés par l'esprit de la gouvernante précédente et surtout par celui de son amant, un ancien valet. Hallucination ou vrai fantôme? C'est avec cette question que s'installe le climat fantastique dans l'opéra Le Tour d'écrou, adapté d'une nouvelle d'Henry James et composé par l'anglais Benjamin Britten. La compagnie lilloise La Clé des Chants s'est emparée de cet opéra et à la suite d'une résidence au théâtre d'Arras se produit pour la première fois avec cette création dans une salle de théâtre conventionnée du Pas-de-Calais. C'est au cours d'une visite dans les coulisses du spectacle proposé par le théâtre d'Arras que j'ai rencontré le metteur en scène Olivier Benezek. Il a une idée fixe, rassembler de nouveaux publics pour le spectacle vivant. On évoque avec lui le choix d'adapter cette nouvelle d'Henry James, les changements et nouveautés qu'il lui a apportés, et puis tout simplement comment il va faire vivre son opéra.
C'est pas un peu stressant pour tout le monde d'avoir une visite comme ça impromptue en pleine répétition générale, enfin juste avant?
On est de toute façon stressé. Alors à mon avis, avant une générale, quoi qu'il en soit, avec ou sans visite, tout le monde est stressé, donc ça n'a pas grande importance. Au contraire, ça nous change un peu les idées.
Vous êtes metteur en scène de la pièce Le Tour d'écrou, donc adaptée d'une nouvelle d'Henry James. Alors pourquoi d'abord ce choix d'adapter cette pièce, sachant qu'elle est adaptée d'une nouvelle qui n'est pas forcément connue et elle a déjà été pourtant adaptée plusieurs fois au cinéma, même en BD?
Alors, Le Tour d'écrou, effectivement, il y a une BD, il y a 5 films, je crois, ou 4 en tous les cas. Par contre, l'opéra, il n'y en a qu'un. C'est donc Benjamin Britten qui l'a composé au début des années 50. C'est une commande de l'Opéra de Venise. Et au fur et à mesure des décennies, c'est devenu un des chefs-d'œuvre majeurs de Benjamin Britten, qui est lui-même, à mon avis, de mon point de vue, le plus grand compositeur anglais du XXe siècle. Et si vous voulez, le donner aujourd'hui correspond à chaque fois à un événement, parce que c'est rarement exécuté. Et c'est un des opéras qui fait le plus d'effet, si on peut dire, qui fait mouche sur le public, tellement l'histoire est hitchcockienne. C'est quelque chose qui est très inquiétant, qui donne des frissons et qui donne mal à l'aise. Et je crois quand même que le public, contrairement à ce qu'on peut penser, aime bien rire, mais il aime bien aussi qu'on le bouscule un peu.
Comment on fait pour adapter et rendre populaire une œuvre qui est déjà très âgée, datée, on va dire, ou même classique ?
Évidemment, il y a des convenances théâtrales qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les années 50. Je veux dire par là qu'on a opté pour une conception tout à fait non naturelle. Je veux dire par là qu'il y a 18 tableaux. On ne va pas faire une tour, des remparts d'un château, un jardin à la française ou à l'anglaise. Non, on a opté pour faire une conception bien plus épurée, qui correspond à une vision très psychanalytique du drame. Et au lieu de jouer l'histoire des fantômes qui reviennent, etc., on a joué beaucoup sur les fantasmes, sur l'inconscient, sur les désirs non avoués et interdits.
Dans la nouvelle d'Henry James, il y a des personnages qui sont fantomatiques, alors qu'ici, ils sont, dans votre adaptation, faits de chair et de sang. Comment vous avez travaillé un peu ce changement ?
Alors, c'est pas moi qui l'ai travaillé, pour être modeste, c'est Britten. Hein, je veux dire que dans la nouvelle de James, effectivement, ce sont des personnages dont on se demande s'ils existent ou pas. C'est au spectateur, au lecteur, de faire le tri. Là, chez Britten, il a lui-même été beaucoup plus loin, puisqu'il a écrit une partition pour la voix avec une grande vocalité, c'est-à-dire beaucoup de qualité vocale en italien, et que du coup les fantômes existent. Ils existent pour de chair et de sang, comme vous l'avez justement dit. Et nous, on en a fait en plus de ça des personnages sensuels. C'est là où on a poussé l'option de Britten d'un simple chant joli, on en a fait quelque chose de sensuel, d'érotique, d'envoûtant et de troublant surtout.
C'est peut-être aussi pour ça que vous évoquez le fait que les personnages se rapprochent un peu plus des personnages de séries comme Twilight.
Alors évidemment, au lieu de faire, ça me plaît beaucoup, oui, effectivement, je l'ai dit un moment, au lieu de faire des fantômes un peu ridicules, on a fait un couple, un homme qui est tenu par David Curry, qui est extraordinaire, c'est un Américain, et une Finlandaise qui fait Miss Jessel, qui est non moins extraordinaire aussi. On en a fait un couple, je dirais, aigri, tordu, mais qui a son charme et qui attire finalement malgré tous les défauts qu'il a. Voilà. Et ça, on a rendu vivant des gens qui ne le sont plus. Et je voulais que ça soit des gens qui nous touchent et non pas des spectres ridicules qu'incarne le mal. Voilà, on a vraiment essayé, je ne sais pas si on y parviendra, mais c'est l'idée en tous les cas, de mélanger le bien et le mal pour pas qu'il y ait comme ça le côté noir et le côté blanc. Personne, je pense, dans la vie n'est si net, quelles que soient les aspirations qu'on ait, et ces deux fantômes pourront par moments nous séduire même s'ils incarnent le mal.
L'opéra est en anglais, il est traduit, sous-titré en français. Vous travaillez avec des chanteurs américains et français qui sortent tout récemment du Conservatoire supérieur de musique de Paris. Quelles sont les difficultés pour adapter justement un sous-titrage et un texte en anglais pour le faire passer correctement ?
Alors, c'est très simple, puisque le texte n'est traduit littéralement et non pas pour être chanté, le texte français. Donc c'est comme au cinéma, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en dessous, c'est au-dessus. Hein, parce que si c'était en dessous, on verrait rien. Et il y a une traduction déjà en français de l'œuvre depuis longtemps d'Henry James, qu'on a reprise intégralement. Quant aux chanteurs, ils sont de niveau très internationaux, puisqu'on a une jeune femme qui vient de New York, un ténor canadien-américain qui fait le rôle de Peter Quint, qui lui chante dans le monde entier, une artiste de haut niveau française qui fait Chantal Santon, qui vient effectivement des conservatoires nationaux, mais qui a déjà une grande carrière derrière elle. Et voilà, à partir de ça, je veux dire, on a un plateau que je considère moi comme étant exceptionnel.
La musique avec l'action qui se déroule sur scène, est-ce que tout est toujours parfait ?
Non.
En raccord ?
Ah non, ce soir c'est la dernière répétition, mais on sait qu'on n'est pas encore totalement prêt. C'est extrêmement difficile à mettre en place parce que la musique est d'une écriture extrêmement complexe, tant pour les musiciens que pour les chanteurs au niveau solfégique. C'est une musique réellement très contemporaine et difficile à exécuter. Mais après, quand on l'écoute, elle passe, elle est tout à fait agréable et subtile et je dirais extrêmement profonde et sensuelle, mais elle est d'une grande difficulté d'exécution.
Tout à l'heure, des essais avec les enfants qui faisaient des voix. J'ai appris que c'était leur première, on va dire, en solo, puisque d'habitude ils chantent parmi des chœurs. Comment ça se passe pour eux ?
Ils ont travaillé depuis plusieurs mois avec leur professeur. Ils sont d'un conservatoire de la banlieue de Lille. Ils ont été sélectionnés sur audition parmi une trentaine d'enfants. Ça n'a pas été simple, pour être clair, parce qu'il y a des horaires aménagés pour les enfants, très particuliers. Ils ne peuvent pas faire trop d'heures parce qu'ils doivent garder l'école. Mais ce sont des enfants peut-être un peu surdoués que nous avons. Ce sont des petits génies, voilà.
Dernière question, est-ce que ça coûte de nos jours encore très cher pour adapter un opéra ?
Un opéra coûte cher, c'est un art qui a été subventionné par le roi quand il y avait un roi. Et maintenant, depuis la République, c'est un art qui est subventionné par l'État. Et s'il n'y avait pas derrière des mécènes ou l'État, il ne pourrait pas exister. Pour la bonne et excellente raison que chaque soir, eh bien, il y a un orchestre à payer, des solistes à payer, un théâtre en ordre de marche. Ça n'a rien à voir avec le théâtre dramatique où vous avez entre 5 ou 2 comédiens, ou même voire 10. Là, vous avez, et encore, le Tour des Crous est une œuvre légère en regard du reste, quand il y a des chœurs, un ballet, etc. L'opéra est un art, c'est ce qui fait sa valeur et sa fascination. C'est un art total. Et le tour d'écrou est plus proche du théâtre en ce sens qu'il y a une très grande rigueur. Mais s'il n'y avait pas derrière la Clé des Champs et la région Nord-Pas-de-Calais, il n'y aurait pas eu ça. Et les Arrageois vont avoir un spectacle à un prix des places très bas qui équivaut à ce qu'on verrait dans un grand opéra de région comme Lille, qui sera d'ailleurs le cas, Lyon ou Marseille. Et ça, je pense que c'est vraiment les services publics qui fonctionnent. Et ça, c'est génial. C'est l'opéra à la portée de tout le monde.
Pendant cet entretien, on évoquait les deux jeunes chanteurs dont c'est la première en solo pour cet opéra. Ils répondent à mes questions, sans trac ou presque, mais de façon pertinente.
Je m'appelle Mathieu Hering.
J'ai appris que d'habitude tu chantais dans des chœurs et là c'est la première en fait en solo. Comment ça se passe ?
Ça m'a fait un peu bizarre au début, mais après non, c'est bon, ça je m'habitue.
Tu chantes en anglais, c'est une langue qu'il faut quand même maîtriser. Est-ce que tu te sens à l'aise finalement quand tu la chantes cette langue ?
Au début je me suis dit oh là là, est-ce que je vais y arriver et tout, mais pour finir non, ça va.
Et avec l'école, comment tu gères ? Ça se passe bien ?
Très bien.
Pas trop peur pour ce soir ?
Non.
Alors toi, ton prénom ?
Agathe.
Alors toi, tu joues quel rôle ?
Flora. La petite fille de l'histoire.
Alors toi, ça fait combien de temps également que tu fais un peu ce style ?
La musique ou le chant ?
Les deux.
J'ai commencé la musique en CE1 et le chant en CE2. Donc vers 6-7 ans, 7-8 ans, quelque chose comme ça.
Et tu t'es dirigée tout de suite vers plutôt l'opéra, le classique ?
Non, en fait, j'aimais bien chanter et puis mes parents m'ont dirigée vers une chorale classique. Et donc voilà, et à force, on aime bien, on s'y habitue.
Et donc toi, l'anglais, pareil, comment tu gères ? Est-ce que ça se passe bien ?
C'est un petit peu difficile, mais bon, à force de travailler l'accent et tout, ça devient de plus en plus facile.
Il y a des choses à faire pour protéger sa voix ?
Moi, je prends des médicaments parfois, pour éviter les extinctions de voix ou des choses comme ça. Et puis après, je mets un foulard ou j'essaie de me couvrir, mais voilà, pas plus.
Qu'est-ce que tu penses de l'histoire que tu vas jouer sur scène ce soir ?
C'est une belle histoire. Enfin, c'est une histoire qui est assez bizarre, qui fait un peu peur. Mais j'aime bien l'histoire.
C'est pas trop dur de se glisser dans le personnage ?
Un petit peu. Enfin, comme dans tous les personnages qu'on n'est pas.
Pascal Dieval-Wills, leur chef de chœur, a un rôle délicat, celui de gérer la voix des enfants dans le spectacle. Comment ça se passe ?
Je suis la chef de chœur dont dépendent les quatre choristes qui ont les rôles, puisqu'ils marchent par deux binômes. Et je dirige la maîtrise du chœur maîtrisien du conservatoire de Wascal.
C'est un petit peu particulier quand même quand on gère des enfants, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut toujours être à leur écoute ou est-ce qu'il y a un moment où il faut imposer des choses ?
Je dirais que le travail que nous avons fait sur le tour d'écrou est un travail spécifique que j'ai fait en dehors du travail de la maîtrise, parce que le travail de soliste n'est pas le même que le travail de chœur. Donc les enfants sont venus en plus un bon nombre de dimanches, on a fait des stages, etc. Donc en fait, pour la fin juin, le programme était, enfin je veux dire, toute la pièce était su par cœur. De manière à ce que juillet et août, ils puissent la tourner dans la tête, l'écouter, la rechanter. Et fin août, on s'est retrouvés, on a remis les bouchées doubles et puis depuis début septembre, ils travaillent avec le metteur en scène.
Alors après, Arras, évidemment, il y a une tournée, il y a plein de villes. Comment ça se passe aussi avec les parents ? Comment vous gérez les relations ?
C'est une grande implication de la part des parents, puisqu'il y a du covoiturage, enfin voilà. Donc ça les a vraiment réunis tous les quatre enfants qui se connaissaient auparavant, bien sûr, dans le chœur. Mais c'est une superbe aventure pour eux, puis une opportunité extraordinaire. Donc je trouve que ce soir, enfin, chaque fois qu'ils vont monter sur scène, c'est la récompense de tout ce qu'ils ont mis dans leur travail, finalement. Et Dieu sait s'ils ont travaillé.
Le public était bien évidemment convié à cette visite intramuros et à la fin de celle-ci, j'ai recueilli les impressions de demoiselles qui imaginaient les choses autrement en coulisses.
Moi je pensais que c'était à côté en fait de la scène et que c'était juste en fait une grande pièce où tout le monde se changeait avec des miroirs et après des petits placards etc. en fait pour ranger les affaires. Non, moi j'imaginais pas trop ça comme ça non plus. Je pensais que les gens étaient un peu plus stressés, qu'ils savaient pas trop comment faire et que c'était vraiment une répétition, la première, vraiment une quoi.
Au niveau justement des protagonistes, les enfants, est-ce que vous les avez vus? Comment ils sont à l'aise? Comment vous trouvez un peu ces gamins?
Ils sont assez à l'aise, mais je pense qu'ils cachent aussi en même temps le fait qu'ils soient stressés. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de chance, je trouve. Ils ont beaucoup de chance et ils sont assez matures pour leur âge. C'est bien de voir ça. Quoi.
Et vous, éventuellement, ça peut vous ouvrir aussi des horizons pour essayer de tenter une carrière? Ça vous tente, ça?
Non, pas vraiment. En fait, il y a trop de concurrence et c'est trop de boulot, en fait, vivre au jour le jour. Et je pourrais pas, perso.
Ah non, moi, contrairement, ça serait vraiment bien. Et je trouve que ça serait une bonne expérience à vivre.